D'une posture, je dirais purement, philosophique et même spirituelle, la voix est ce que nous sommes, la voix est notre présence au monde, et c'est bien davantage que ça. La voix est le médium qui va forger la... En coordination, je dirais bidirectionnelle, va forger ce que nous sommes. Nous devenons ce que nous sommes par la voix.
Si on voulait, là, on est rendu au moment où on va présenter l'émission, on va dire, vous écoutez dans le champ lexical, cette semaine, le mot c'est voix. C'est quoi la meilleure façon, si on veut justement que l'auditeur à la maison se dise, OK, je vais rester pour le reste de l'émission. Ce serait quoi la meilleure façon de dire cette phrase-là, vous écoutez dans le champ lexical, cette semaine, le mot c'est voix. Ce serait quoi la meilleure approche pour ça, d'après toi?
Wow! Moi, je dirais, mettez beaucoup de musique en arrière-plan.
Ben là, on se fait un peu plus confiance que ça.
Non, mais... Tu sais, je veux dire, les sonales, les jingles sont extrêmement importants pour attirer l'attention. Ça joue pour beaucoup. Mais, parce que j'ai l'impression que même avec différentes tonalités, là, ça aurait moins d'impact que de le chanter ou de simplement comme tu l'as fait. Nous, tu sais, je veux dire, c'est une question d'intention. Vous devriez rester jusqu'à la fin. C'est une de nos grandes émissions. On a travaillé très, très fort. Tu vas avoir plus de chance d'avoir les gens qui vont rester avec toi que... Zéro, ne manquez pas. Demeurez avec nous.
Okay, OK, bon, ben alors.
OK, hey, les auditeurs, on a vraiment travaillé fort pour ce show-là. S'il vous plaît, restez.
Écoutez-nous. Écoutez dans le champ lexical. Cette semaine, le mot régent, c'est quoi?
Voix.
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 Voici la voix.
On va mettre un jingle, puis tout va être correct.
Voilà. Mathieu et moi, on est allés rencontrer Régent Gaudreau, chargé de cours à l'UQAM en communication, celui qui nous a appris à mieux faire de la télé et de la radio, et qui a la voix, Mathieu, tu me corriges si je me trompe, la plus radiophonique au monde.
Ben, je te corrigerai pas là-dessus, Joanie, et je dirai seulement aux gens qui nous écoutent que ce que vous allez entendre, c'est loin d'être l'intégrale de l'entrevue, parce que il y avait beaucoup, beaucoup de choses dedans, parce que visiblement, quand on a une belle voix, on est tenté de l'utiliser le plus possible, et t'as pas le goût d'interrompre la personne quand elle parle si bien que ça. Alors, pour vous, à la maison, appréciez la voix de Régent Gaudreau.
Vous savez, il n'y a aucune rupture généalogique entre nous et Cro-Magnon. Il faut bien se rappeler qu'il y a quelques millions d'années, nous grognons. Mm-hmm. Et le cerveau s'est développé par des voies qui sont notamment la question de la bipédie, une transformation de l'ossature, la station droite, ça a amené une modification du cerveau, ça amène aussi une modification de la voix. La voix modifie le cerveau. La voix modifie littéralement le cerveau. Le cerveau est quelque chose de plastique, la plasticité du cerveau. Dès le moment où tu apprends quelque chose de nouveau, puis très souvent par la voix, que tu vas entreprendre une nouvelle action vocale ou tu vas explorer un nouveau sujet, ça a des répercussions au niveau du cerveau. La voix va transformer le monde et la voix nous transforme continuellement.
Est-ce que tu dirais également que le langage modifie la voix? C'est-à-dire que si je parle
absolument
mandarin,
je n'aurai pas le même ton. Toujours, tout est interrelié et interagit à des niveaux, je dirais, multidimensionnels. Mais l'élément moteur, c'est vraiment la voix. Il y a eu une expérience célèbre qui avait été réalisée par un comte autrichien, je pense au 18e siècle, où il avait placé des enfants du royaume dans une situation où, pendant 3-4 ans, il y aurait des gens pour les nourrir, mais les gens ne leur parleraient pas.
Mais vous voulez savoir quelle était la langue naturelle?
La langue naturelle, la langue primitive, là. Et les gens étaient couverts de peau de loup, alors on essayait de voir. Et après 3-4 ans, on s'est mis à leur parler, ils n'ont rien compris. Et ce qui a été malheureux de l'expérience, c'est quelques années plus tard, ces enfants-là ont dépéri et sont morts prématurément. C'est-à-dire que nous sommes tous, je dirais, le produit de différentes cultures qui se manifestent, qui s'incarnent en nous et que nous incarnons par la voix. Ça, je vous dis, on peut en parler, dire la voix parlée à la radio, qui est une voix très commerciale, mais de façon générale, la voix est ce que nous sommes.
Est-ce qu'on pourrait améliorer notre voix? Est-ce que moi, présentement, je suis fatigante peut-être et je pourrais m'améliorer?
Insupportable, insupportable.
Ben moi, c'est ce que j'allais dire. Je voulais que l'entrevue s'arrête ici, mais bon. Non. Mais là, tu soulèves une question qui est quand même pour moi professionnelle. Oui.
Je t'interromps, excuse-moi. Est-ce que les filles devraient parler plus... Les hommes, donc, on essaie de prendre une voix un petit peu plus grave d'habitude. Est-ce que les femmes devraient faire la même chose? Ou devraient, en tant que femme, aller plus vers l'aigu? Joanie devrait-elle parler plus aigu à la radio?
La voix est ce que l'on est. C'est pourquoi ça devrait changer quand on est au micro?
Quand on est en personne, les gens qui nous écoutent nous voient et peuvent donc comprendre qu'on est joyeux, triste, fâché en voyant nos mains, que je suis en train d'ajuster moi-même, mais que les gens à la radio ne voient pas. Est-ce que, par conséquent, les gens à la radio qui ne voient pas, est-ce que quand on parle à la radio, ça veut dire qu'il faut rendre la joie plus joyeuse, la neutralité encore plus neutre? Est-ce qu'il faut sourire doublement si on veut faire sentir le sourire?
On entend dans les annonces de dentifrice, par exemple. La fille a l'air de sourire là, dans sa voix.
Mais sourire comme jusqu'aux oreilles. Ouais, là, je pointais mes oreilles, ça ne sert à rien. Mais...
Ben, encore là, oui, ta question, pour répondre à ça, il faudrait que je revienne à ce que je disais tantôt. La voix va s'adapter à ton intention. Si tu veux avoir une voix souriante, ben je vais avoir une voix souriante parce que je veux que ma voix soit souriante. A contrario, si
je veux... Tu ne ferais jamais cette quantité de sourire-là en vrai d'une personne. Alors, ce que tu viens de faire, c'est un sourire de micro, dans le fond.
Non, c'est pas vraiment un sourire de micro. C'est parce que je peux reprendre en moi une composante un peu plus joyeuse. Et puis, la rendre, je veux que notre rencontre devienne joyeuse. Moi, ça me plaît toujours beaucoup. Je vais vous prendre du temps. Mais tu sais, et à un moment donné, Pierre Lebeau. Pierre Lebeau, c'est assez intéressant parce que Pierre Lebeau a une voix spontanément, une voix de ténor. Pierre Lebeau n'a pas une voix de basse. Le comédien Pierre Lebeau. Alors, Pierre Lebeau faisait à une certaine époque une raquette de tennis, 75 $, une bouteille de champagne, de bon champagne, 85 $. Pour le reste, il y a Mastercard.
Vous voyez? C'est pas sa voix naturelle.
Mais on peut pas dire que c'est pas la voix de Pierre Lebeau. Mm-hmm. Parce que quand tu regardes Méo dans certains films et puis dans la série des Bois, il y avait une voix un petit peu plus comme ça. Mais est-ce que c'est purement joué? Il y a rien qui est purement joué. Je veux dire, il y a des matériaux internes, là. Faudrait aller dans l'école de Stanislavski, la reviviscence affective. Et là, il y a quand même toujours quelque chose de vrai dans ce qui est fin. Comme il y a quelque chose de fin dans ce qui est vrai.
C'était une version de Pierre Lebeau. C'est comme différentes versions de la personne selon la voix que
écoute, on sort légèrement de la norme, on s'éloigne légèrement de la norme pour capter l'attention.
Les gens écoutent beaucoup la radio. On est de culture orale, hein? Alors, c'est pour ça que la radio, c'est facile pour nous de s'identifier et de s'intégrer à ça. Nous, on n'a pas d'écrit. Hein? La langue, nous, là, c'est une langue orale. Hein?
Une langue orale. Une langue qui ne tient qu'au fil de la voix. Au fond, c'est une langue faite pour la radio. Réginald Volant, qu'on entendait juste avant, est directeur de la station CKAU, la radio communautaire qui diffuse depuis la communauté d'Ouachat-Mac-Manutenam, tout près de Sept-Îles. C'est une des nombreuses radios autochtones au Québec. Des radios qui, plus souvent qu'autrement, sont multilingues. On passe donc du cri ou du montagnais au français ou à l'anglais. Des radios qui sont des acteurs importants de la continuité des langues autochtones.
Quoi,
ça va?
Ça va bien. Il fait beau par là chez vous?
Ah, ben là, il pleut aujourd'hui, là.
Ah, oui.
Oui. Ben, ça fait pousser les feuilles.
Oui, hein? Oui. Tu n'auras pas besoin d'arroser.
Non.
Marie-Josée, tu as une nouveauté cette année, un beau projet pour les jeunes. Est-ce que tu voudrais nous en parler?
Ben c'est ça. C'est mon projet, c'est un camp de jour.
Réginald Volant, directeur de CKU.
C'est très, très écouté dans les maisons pendant que les gens se font à manger le soir ou l'après-midi ou peu importe.
Mais est-ce que vous pensez...
Mais le mandat principal, c'est de pouvoir véhiculer la langue inno via la radio communautaire. On a un très grand rôle à jouer là-dedans.
Parler pour survivre. C'est justement le slogan qu'utilise la Société de communication Atikamekw-Montagnaise, la SOCAM, un réseau de 14 stations affiliées qui ont choisi de se regrouper. En fait, les radios autochtones existent depuis 1950. Elles ont cependant pris de l'expansion vers le milieu des années 70 et ont décidé de former la SOCAM en 1983. Depuis, les différents groupes autochtones s'échangent des idées. La parole, relayée par le micro, relie les villages.
On fait partie d'un réseau, hein, ce SOCAM. Puis, ce que les radios communautaires font, les radios de l'Est, là, qui n'ont pas une programmation, je dirais, établis, puis qui n'ont pas aussi souvent les ressources là, pour mettre du monde dans leur station. Souvent, ce qu'ils vont faire, ils vont carrément switcher leur console, puis ils viennent chercher le signal CKU, et nous, ils nous diffusent dans leur village. C'est pas quelque chose qui est structuré. On ne sait pas, nous, nécessairement, à quel moment il y a une diffusion dans chaque village, mais très souvent, régulièrement, ils viennent chercher notre signal, puis sinon on autorise, nous, ça nous fait plaisir, il n'y a aucun problème. Sauf que eux, ils n'ont pas d'horaire précis. Comme un lundi matin, ils peuvent être là comme ils peuvent pas être là, tu vois.
Désolé, bonsoir, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour la voix de ce soir. Les mini qui sont de couleur jaune, oui, oh, utile au moins. Le premier tour, deux lignes, vont pour 400$, nous, mesdames. Deux lignes, vont pour 400$. Passez une excellente soirée.
Nous, ce qu'on fait de particulier à la radio communautaire, ce que des radios commerciales ne font pas, ni radios nationaux aussi, on joue au bingo à la radio. Ça, c'est assez particulier. Alors, nous, on a nos trois soirs, semaines, on fait des bingo radio.
Oui.
Les gens sont dans les maisons, à partir de la salle à manger chez eux, ils jouent au bingo et ils écoutent la radio communautaire. C'est la principale activité de financement pour nous.
N42, Néonoir, on est chez N42. N35, je suis en de N35. N44, Néo Noir, on est N44.
0189-708.
Et vos numéros sont?
36.
31. 35. 35. 37.
37. 15. 15. 22.
22.
56.
56.
75.
Merci, bonsoir.
Merci.
La pause de 25 secondes est une présentation de l'émission Country Centre-Ville avec votre animateur Alexandre Astaire tous les vendredis, samedis et dimanches de 16h à 19h. L'émission Country Centre-Ville à CKU.com.
Maintenant, on peut écouter la radio via Internet. Et beaucoup de gens des autres communautés aussi, là, de La Romaine, Natashquan, Shefferville, même les Innus du Labrador écoutent très, très, très religieusement, régulièrement la radio. Alors, ça dépasse la frontière de cette île, Manitoulin. Ça fait partie de la vie quotidienne des Innus maintenant, la radio communautaire. Mm-hmm. S'il n'y aurait pas de radio demain matin pendant deux jours, écoutez les gens, là. Mm-hmm. Regarde, je te donne un exemple. Quand quelqu'un cherche à rejoindre telle ou telle personne, il appelle l'animateur. Mais peux-tu dire à Alexandre, là, qui appelle chez nous, j'ai besoin de le rejoindre.
Mm-hmm.
Ekbek shtermyak Kin wesh hey Mozek ekbek shtermyak Kokum hey Mozek kamyo danan Nik shter chige Bamadam ber mitnan Ninan kyo simak Mamo gach ter mitzonan Ninan kyo simak Kinoesh ekbe pomtein Keke Kinoesh, ekbe, kinoamiak Ninan, oh yeah Mozek, kam kwer midnan Kukum, yeah Mozek, kazagidnan Ninan, oh yeah Ninan kyo simak Mamo gak shter mitzonan Ninan kyo simak Tabwe kipe wider tabuzin Kokum hey ya hey Tabwe kipe Kukum, hey, hey Kinoesh, shekipe, madzin Kikir, yeah, yeah Kukum, aji Aji, ospimek Ospimek, ospimek Ospimek, yeah,
Mon nom est Paul Beauséjour, je suis producteur publicitaire. En fait, je fais la rédaction des textes et l'enregistrement et je fournis ma voix fort souvent.
Et justement, pour fournir ta voix aussi souvent, si on écoute CIBL, souvent on a remarqué que tu as tout un catalogue de voix différentes, de registres différents. Est-ce que c'est tout dans ta tête ou tu as vraiment une liste là, pour être sûr que tu équilibres ça?
Oh, c'est pas mal tout dans ma tête et je vais utiliser des voix différentes en fonction de la chose à annoncer. Si j'ai quelque chose de suave, ben je vais me rapprocher du micro et je vais parler d'une façon un peu plus grave, un peu plus sexy. Et si j'ai quelque chose de très hyper, ben là, je suis pas capable de parler bas, OK? Alors, on change un peu le registre selon le produit.
Est-ce que c'est tous des effets sortis de ta voix, de ta tête, ou il y a aussi des trucs électroniques?
Ah, il y a parfois des trucs électroniques. Disons qu'à 90 mots pour un 30 secondes, ça se fait bien. Là, c'est rythmé, mais pas trop énervé. Mais il y a des clients qui nous fournissent, disons, au lieu de 90 mots, 110, 115 mots. Alors là, on a beau avoir un bon débit puis bien lier nos phrases, mais des fois, il faut accélérer à l'ordinateur pour que ça rentre dans le format.
Ça fait combien de temps que tu fais cette tâche-là, CIBL?
En tout, à peu près une dizaine d'années.
Et quand on utilise, t'en fais tous les jours, ouais. Quand on utilise sa voix sur une base quotidienne comme ça, j'imagine qu'il y a des ennemis, genre le rhume, là, ça doit pas être quelque chose de très pratique dans ton métier.
Ça m'est arrivé à l'occasion d'en faire des pubs avec le rhume et je me promène avec ma petite bouteille de décongestionnant que je me sproute dans le nez et ça me donne une voix à peu près raisonnable pour quelques minutes. Alors, faut pas que je niaise en studio à ce moment-là.
Je m'appelle Yvon Leblanc et je veux vous raconter un épisode de ma jeunesse. Ça se passe alors que j'étais au niveau secondaire, nous étions une douzaine qui vivions à la maison à ce moment-là, alors vous imaginez une grosse famille, les déjeuners assez trépidants, tout le monde est pressé, on fait des rôtis à la chaîne et sur les deux pains peut-être qui étaient rôtis chaque matin, il y avait quelques toasts qui étaient ratés, il y en a qui étaient brûlés, il y en a qui ne paraissaient pas bien, enfin pour toutes sortes de raisons, les toasts ratés étaient mis de côté. Ma mère me suggérait à moi de les manger. Pourquoi? Parce qu'elle disait que ça me ferait une belle voix. Je ne sais pas où elle avait pris ça. Mais en tout cas, moi, je ne pensais pas trop à la qualité de ma voix, puisque de toute façon, j'avais un peu décidé à ce moment-là que j'allais devenir professeur d'anglais. Mais curieusement, lorsque je suis arrivé à peu près dans ma 20e année, quelqu'un s'est aperçu que j'avais une voix qui sortait un petit peu de l'ordinaire et j'ai commencé à travailler à la radio. La chose m'a plu et depuis 40 ans maintenant, je vis avec cette voix qui a sans doute été un petit peu râpée par les toasts rôtis que je mangeais, non seulement rôtis, parfois brûlés, parfois séchés parce qu'on me les gardait même pour l'heure du dîner. Alors, ça donne un peu à réfléchir, je pense, sur le lien qu'il y a à faire entre les rôtis brûlés et la qualité de la voix. Vous écoutez Dans le champ lexical, l'émission qui tourne autour du mot, et le mot, cette semaine, c'est « voix ».
Ces lamentations que vous entendez sont celles de Nock. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Nock n'est pas un homme en état d'ébriété ou quelqu'un qui fait des vocalises devant une fontaine d'eau. C'est plutôt un beluga captif d'un aquarium de San Diego, en Californie, qui est décédé en 2007. Un chercheur de la Fondation nationale sur les mammifères marins aux États-Unis, Sam Rigway, a récemment analysé les sons qu'émettait ce beluga. Selon le spécialiste des cétacés, Nock le beluga s'est entraîné à moduler la pression de l'air dans ses narines pour réussir à abaisser son cri naturel de plusieurs octaves. Le beluga aurait aussi développé ses muscles pour y arriver. Selon le chercheur, il n'y a aucun doute que le cétacé cherchait en fait à rentrer en contact avec les humains. Fait cocasse, Nock le beluga a fait des vocalises durant 4 ans. Il a perdu tout intérêt à discuter avec les êtres humains lorsqu'il a atteint sa maturité sexuelle. Comme quoi, ce n'est pas encore peine perdue pour les quelques 100 000 belugas en voie d'extinction. Le devoir de reproduction est plus fort que tout.
Au loin sur l'île déserte, je suis seule au soleil. Sur le continent, je perdais tout mon temps. Je voulais pas que tu m'engueules, je voulais que tu me surprennes. Mon nom manque à l'appel, non je ne suis plus la même. Ah ah, le chant des sirènes. Ah ah, le chant des sirènes. Dans notre vie commune, c'était trop de querelles. Après mes clics et mes claques, et j'ai claqué la porte. voulais pas qu'ils m'engueulent, c'est la mer qui m'emporte. Je voulais être seule, je voulais être seule. Ah ah, le chant des sirènes. Ah ah, le chant des sirènes. Ah ah ah, le chant des sirènes. Ah ah, le chant des sirènes. C'est des mêmes rengaines. J'ai tout laissé tel quel. J'ai perdu ma parole et j'ai volé la tienne. Avant que l'amour s'en va, quitter la métropole, on l'a échappé belle. Non, je ne suis plus pareille. Mais maintenant je suis lasse, j'en ai marre d'être seule. Je voudrais que tu me surprennes, que tu viennes sans rancune. Je veux que tu peuples mon île avec tes idées folles. Pour mettre un peu de sel, tu sais, je suis plus pareille. Ah ah, le chant des sirènes. Ah ah, le chant des sirènes. Ah ah ah, le chant des sirènes.
Je m'appelle Marguerite Humo. Alors dans la vie, je suis... Alors en anglais, on dit speculative designer. Moi, je pense que le design, c'est pas simplement fait pour... c'est pas simplement de designer des chaises, des tables, des objets utiles, ou utilitaires plutôt. Mais on peut aussi utiliser le design pour d'autres choses. Et moi, en particulier, ce qui m'intéressait, et là, en plus dans ce projet là, de l'Opéra des créatures préhistoriques, c'est est-ce que finalement on pourrait utiliser le design pour recréer des parties de notre histoire qui ont été oubliées?
Qu'est-ce que c'est le projet Opéra des créatures préhistoriques?
Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, mon idée de départ, c'était de recréer la voix, le son des créatures préhistoriques en reconstruisant leurs organes de production sonore.
Ce que vous entendez, c'est le son aigu d'un ambulocétus, une espèce de baleine à pattes, et les grognements d'un antélodon, un porc d'environ 2 mètres de haut. Les deux espèces sont disparues depuis des milliers d'années maintenant, mais grâce au travail de la designer et artiste française Marguerite Humo, on peut maintenant réentendre leur voix. Ou du moins, ce à quoi leur voix devait ressembler. Marguerite Humo a recréé les organes et les morceaux nécessaires pour faire revenir à la vie les sons d'une baleine à pattes et de l'ancêtre du porc, mais aussi d'un mammouth impérial et d'un australopithèque.
J'ai commencé à contacter des paléontologues, des zoologues, etc. Et en fait, j'ai très vite compris que ma démarche était problématique, puisque en fait, tous ces organes de production sonore, donc les poumons, la trachée, le larynx avec les cordes vocales et ensuite les cavités de résonance sonore, donc les muqueuses, les tissus qui sont à l'intérieur de la bouche et du nez, en fait, sont complètement constitués de tissus sanguins et donc ne se fossilisent pas. Donc ils ont vraiment disparu à jamais. Et tout ce qu'on a aujourd'hui comme indice, ce sont les os environnants. Donc les squelettes de ces bêtes, mais pas à l'intérieur de ces squelettes. Et moi, ce dont j'avais besoin, c'était justement ces tissus, donc les formes en fait fantômes. Au début, je pensais vraiment que ce projet allait me prendre quelques mois, que finalement ces données devaient exister quelque part, que j'allais contacter un muséum d'histoire naturelle avec qui j'allais pouvoir collaborer. Et...
qui allait vous envoyer un larynx par la poste que vous pourriez juste mettre dans une cage.
Sur un CD ou sur une clé USB et que je l'imprimerais en 3D et que ce serait OK. Et en fait, voilà, je me suis rendu compte que ces données n'existaient pas. Et donc ça m'a d'autant plus intéressée puisque là, je m'attaquais en tant que designer à un champ qui était finalement complètement nouveau. C'est problématique sur le plan scientifique puisque ces formes n'existent pas, donc on ne peut... Pour les scientifiques, c'est difficile en fait de trop spéculer sur des bêtes comme ça qui ont existé il y a des millions et des millions d'années. Mais moi, en tant que designer, j'ai d'autres outils. Je peux utiliser la fiction, les histoires. Je peux vraiment commencer à spéculer, raconter des histoires avec mon travail. Donc pour moi, c'est pas du tout un problème d'utiliser à la fois des données scientifiques et des données qui sont plus de l'ordre des données réinventées en fait.
Donc vous acceptez qu'il y a une part de supposition pure dans le résultat?
Bien sûr, c'est pour ça que le projet est intéressant, je pense. C'est que finalement, j'ai essayé d'aller aussi loin que je pouvais dans la recherche scientifique, mais je me suis très vite rendu compte que ça n'allait absolument pas être suffisant pour pouvoir faire mon projet. Et donc là, il y a eu un moment où j'ai vraiment commencé à devenir le designer et à complètement redesigner certaines parties, en fait.
Et avez-vous commencé par le mammouth?
Ah oui, alors j'ai commencé par le mammouth, et ensuite par un australopithèque aussi, c'était la toute première pièce, qui est maintenant dans la collection du MoMA à New York. Et ensuite, cette année, j'ai continué, donc j'ai réalisé la baleine sur pattes et le Terminator Pig, qui est un cochon préhistorique. Donc, cochon de l'enfer, traduit littéralement.
Et tu fais à peu près 2 mètres de haut.
Voilà, et la baleine, donc j'ai tout réalisé à l'échelle 1-1. Et donc la baleine est à peu près à 4 mètres 50 de haut. Le mammouth, fait à peu près 3 mètres 50 de haut. Et le cochon, 2 mètres à peu près.
Pour produire un son, il faut faire passer de l'air, dans des cordes vocales. Qu'est-ce qui sert de cordes vocales et d'air? Comment ça fonctionne?
Alors, en fait, c'est de l'air comprimé qui est projeté dans des larynx, donc complètement redesignés, sur lesquels donc, j'ai retendu en fait des cordes vocales, entre guillemets, donc, qui sont faites à partir de différentes couches de latex différents. D'élasticité différente en fait. Et donc en fait l'air comprimé en venant exactement comme en fait ce qui se produit dans une quand on parle, c'est en fait de l'air comprimé qui vient faire vibrer nos cordes vocales, donc c'est exactement le même principe. Et ensuite donc le son produit résonne dans ces cavités de résonance, donc la bouche et les cavités nasales. Voilà, c'est comme ça que ça marche.
Ça, c'était le son d'un australopithèque. L'australopithèque la plus connue s'appelle Lucie. Vous la connaissez sûrement. Et donc, on vient d'entendre un peu la voix de Lucie. Peut-être, probablement, on le saura jamais. Mais Marguerite Humeau ne se contente pas de faire des sons de façon aléatoire à ses récréations. Elle fait bien plus que ça.
Pour une partie du projet, j'ai travaillé avec des musiciens et ingénieurs, en fait. La personne principale avec qui j'ai travaillé, c'est Julien Blois. Et en fait, avec lui, on a créé une intelligence artificielle qui permet en fait à mes bêtes d'évoluer à nouveau. Donc en fait, c'est leur son qui évolue à nouveau. On a défini un set d'une heure et demie, donc c'est le temps d'un concert en fait. Les bêtes apprennent tout d'abord à communiquer. En fait, on a imaginé que chaque créature représentait sa propre espèce. Donc elles apprennent tout d'abord à communiquer à l'intérieur de leur espèce et ensuite les unes entre les autres, puisqu'on a un mammouth, un cochon préhistorique et une baleine sur pattes.
Oui.
Donc au fil en fait du concert, si on peut appeler ça un concert, de la performance, elles commencent à communiquer entre les espèces et leur vocabulaire sonore s'enrichit en fait grâce à ça.
Vous les faites littéralement chanter finalement.
Oui, on peut appeler ça chanter. Au début, c'était communiqué, et puis finalement, on peut dire qu'elle chante, oui, je pense.
Quelle est la réaction des gens face au son qui est produit?
En fait, le son qui est produit n'est pas seulement un son, mais il est aussi physique, puisqu'on sent les vibrations en fait, du son quand on est près des bêtes. Et ça, je pense que c'est assez impressionnant. En plus, on les entend respirer. Donc, je pense qu'on est vraiment en fait, transporté dans l'histoire, et ça fonctionne plutôt bien. Keep your producer guessing when you're in the booth confessing and say it was mostly fiction. If they ever come to get you, better bet your bottom dollar on the spirit, son and father that I'll spit and shit and holler. Yeah, 'cause I'm my mother's daughter. Be warned, my temper burns like a ginger bloke pugilist. Unconcerned, I never learned to swing elbows or use my fists. Trying to live and let live and focus, invest in problem markets. But killer's on a road trip, his text says not with carcass.
From the backs of 10 flyers and pen, the guilt-racked liar pretends to confess.
When I was a little fat kid, I'd throw fits and punch doors. My frame is the same, I've just thinned, I want more. Down pinned on the floor, trading places with my shadow. A pallid sallow corpse for a rising hell to swallow. Fully unarmed or armed under the robes with a staff, only you're unarmed. Fully under the robes through the ribs and inner body. But for a bulging lung of poison, poised to voice its cut. And what's worse, of course, the sick and biley guts.
From the backs of 10 flyers and pen, the guilt-racked liar pretends to confess.
They asked him whether he was sane and if he'll ever kill again. Take half a clever lawyer's brain to link the weapon to the man. Bitter thoughts, liver spots, or bash your skull on river rocks. Love you lot, sign mom with hearts, OXOX on a Hallmark card.
On the backs of 10 flyers and pen, the guilt-racked liar pretends to confess.
Cette voix d'animal blessé qui interprète une chanson de Jerry Boulet, c'est celle du plus jeune membre de la famille Latreille à la finale de l'émission Un air de famille. Et comme il a à peu près 15 ans, ben on repassera pour la vie marquée par l'alcool, la cigarette et les nuits folles. Puis ça, c'est son frère.
La voix, c'est une chose. La voix, c'est une chose, et ils nous l'ont prouvé tout le long de la saison. Les Latreilles savent chanter. Choisir la chanson, choisir les mots qui correspondent à notre vécu, puis ce qu'on va porter tout au long de cette chanson-là, il n'y avait pas meilleur exemple que ce soir.
C'est vrai que c'est important de bien choisir sa chanson, comme par exemple, ne pas faire chanter cette voix par un jeune de 15 ans. Mais, je ne suis pas là pour me fâcher du fait qu'à la télé, j'entends plus souvent la voix d'une gang d'amateurs que de chanteurs professionnels. Non. Ça, c'est le travail de Christiane Campagna.
En 2013, si un auteur-compositeur ou un interprète veut passer à la télé, il est mieux de perfectionner son risotto ou son osso buco parce qu'il a plus de chances d'être invité dans la cuisine de Christian Bégin ou José Di Stasio que dans un show de musique. À la télé, les micros et les projecteurs ne sont pas pour les gens qui ont de la musique originale à nous faire découvrir, ils sont pour les amateurs de karaoké qui nous ressassent des vieilles tunes d'Offenbach ou Joe Dassin. Tant sur les chaînes privées qu'à la télévision d'État, les musiciens sont remplacés par des illustres inconnus à la recherche de leurs 15 minutes de gloire que vous pourrez tenter de sauver de l'élimination à 1$ la pile. Star Academy, on connaît la chanson, un air de famille et bientôt La Voix, version québécoise de The Voice. Les programmateurs télé n'en ont plus que pour ces talents catélis de l'an 2000. Pendant ce temps, les musiciens de métier, les Yann Perrault, Louis-Jean Cormier, Catherine Durand, Marie-Pierre Arthur, ceux qui ont un nouveau disque à proposer et des chansons de leur crew à chanter, on les entend où? Nulle part ou presque. À Radio-Canada, depuis qu'on a flushé l'excellent Studio 12, la seule autre émission de variété est Dans l'univers 2, où on ne chante que des extraits et des pot-pourris qui sont la moitié du temps interprétés par des amis de l'invité, plus souvent des acteurs que des chanteurs, d'ailleurs. Même à Belle et Bomme, qui est le dernier bastion de la musique à la télé québécoise, on gaspille de précieuses minutes de l'émission à écouter des vedettes nous fausser leurs souvenirs d'enfance et leurs chansons fétiches. De nos jours, la question que Claude Dubois devrait se poser n'est plus « qu'est-ce que tu veux qu'un chanteur chante? » mais « you sais que tu veux qu'un chanteur chante? » Parce qu'à la télé, on préfère faire chanter des humoristes, des comédiens, des boulangers, des coiffeuses et des professeurs d'éducation physique. Comme dirait Stephen Faulkner, « qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir chanter? »
Ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde, des forgerons pour forger, des bûcherons pour bûcher. Les pêcheurs prennent le poisson, les tailleurs cousent les boutons. Chacun son métier, les vaches seront bien gardées. Si tout le monde était poète, qui mettrait le pain sur les tablettes? Si tout le monde jouait de la guitare, qu'est-ce qui pomperait le gaz dans nos chars? Qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir chanter? Ça prend des fins puis des fous pour faire tourner la roue. Des actrices pour faire rêver, des waitresses pour réchauffer le café. Il faut des chauffeurs de taxi puis des truckers pour rouler la nuit. Des métallos pour couler l'acier, il n'est point de sous-métier. Si tout le monde jouait dans l'orchestre, il y aurait peu de chance à piste de danse. Si on faisait tous du show business, qu'est-ce qui ramasserait les vidanges? Qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir chanter? Des grands, des bons et des méchants, des croque-morts, des gratte-papiers, des flics, des putes et des banquiers, des Einstein, des Picasso, des ticounes puis des Joe Blow, des gérants et des plombiers, de tous les talents, de tous les métiers. Si tout le monde était star, diplômé de l'académie, la vie serait plus alors qu'un gros karaoké. Qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir chanter?
Eh bien, c'est malheureusement tout pour cette émission de Dans le champ lexical. Et bande de chanceux, je viens de prendre la décision de ne pas vous chanter le générique finalement. Donc, je vais seulement vous le dire de ma voix de miel. Merci à Sarah Champagne pour le reportage sur les radios autochtones. Une version remaniée d'un reportage qu'on a d'abord entendu à la très bonne émission Médiamag, qui joue tous les vendredis à 9h sur les ondes de CIBL. Merci également à Lisanne Rault-Leblanc et son papa, Yvon Leblanc. Un gros merci aussi à Paul Beauséjour, LA voix de CIBL. Notre thème est une création originale de Sonny Duval et Marat Tremblay. Et l'équipe qui a travaillé très fort pour vous amener cette émission voix, c'est Mathieu Charlebois, Joannie Larue, Christiane Campagna et Nancy Caouette. Revenez-nous la semaine prochaine, parce qu'on va plonger dans le mot « oh ».